C'est l'heure de la chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice du projet Intercom. Elle est au bout du fil aujourd'hui. Bonjour Roxane.
Bonjour Hélène.
Alors, votre sujet aujourd'hui, l'effet spectateur. Pourquoi n'intervient-on pas toujours face à l'urgence?
Oui, j'ai préparé cette chronique avec Gabriel Perrault, un étudiant au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Puis, je me suis intéressée à ce sujet parce que au mois d'août 2025, une vidéo virale qui a circulé sur Internet qui montrait l'agression d'Irina Zaratska, une réfugiée ukrainienne dans un tramway à Charlotte, en Caroline du Nord. Sur les images, on voit un homme assis en arrière d'elle. Il se lève brusquement et la poignarde à deux reprises au cou. D'abord, elle est surprise, elle porte instinctivement la main à sa blessure sans réaliser immédiatement que c'était très grave la situation et elle s'est effondrée. Il y a plusieurs passagers qui ont assisté à la scène. Aucun n'intervient. C'est juste après sa chute que certains témoins réagissent. Il était déjà trop tard. Cet événement n'est pas isolé. Au fil de l'histoire, il y a eu plusieurs situations similaires qui ont été observées. Comment expliquer que, face à une urgence, il y a tant de personnes qui choisissent de ne rien faire? Donc, en psychologie sociale, c'est un paradoxe qui s'appelle l'effet spectateur. Dans cette chronique, bien, je voulais explorer ce concept. C'est un des concepts, en fait, qui m'a attirée vers la psychologie sociale parce que je n'arrivais pas à comprendre.
Alors, justement, essayons de comprendre avec vous, Roxane, comment ce concept est-il apparu dans l'histoire de la psychologie sociale? Qu'est-ce que c'est exactement l'effet spectateur?
Bien, c'est un phénomène qui a été bien documenté. Ça désigne une tendance des individus à ne pas porter assistance lors d'une urgence lorsqu'ils se retrouvent en présence de d'autres témoins. Donc, ça a émergé après un drame similaire à celui que je vous ai raconté, mais c'était en 1964 à New York. C'était le meurtre d'une jeune fille, Kitty Genovese. Et selon les premiers récits médiatiques, il y avait 38 personnes qui auraient observé la scène sans intervenir pendant plus de 30 minutes. Bon, ce chiffre-là a été nuancé par la suite, mais l'affaire a vraiment marqué l'opinion publique puis a poussé deux chercheurs, John Darley et Bid Latané, à étudier scientifiquement ce comportement. Donc, dans leurs recherches qu'ils ont publiées en 1968, donc ça fait un peu de temps de ça, ils s'appuient sur une expérience scientifique qui est devenue une classique dans le domaine de la psychologie sociale. Les chercheurs ont invité des étudiantes à participer à une discussion par interphone. Chacun était isolé dans une pièce. Puis pendant l'échange, il y a un des participants qui simulait une crise d'épilepsie, faisant croire qu'il avait besoin d'une aide d'urgence. Donc, les chercheurs ont manipulé aussi le nombre perçu de témoins. Donc, certains étudiants qui étaient au bout du fil, comme on dit, de l'interphone, croyaient être seuls avec la victime. D'autres pensaient faire partie d'un groupe de 3 ou alors d'un groupe de 6 personnes. Au total, il y a 79 personnes qui ont été testées dans cette expérience. Les résultats ont été frappants. Plus les participants pensaient être nombreux, plus ils tardaient à réagir et moins ils étaient enclins à intervenir. Donc, par exemple, 85% de ceux qui croyaient être seuls ont rapidement donné l'alerte, donc ils ont fait une action là, pour aider la personne, contre seulement 31% dans le groupe de personnes où ils étaient 6. Donc, ça confirme l'hypothèse de la diffusion de la responsabilité.
Ouais.
C'est-à-dire que la présence de d'autres témoins dilue le sentiment d'être personnellement responsable d'agir.
Quels sont les principaux mécanismes psychologiques qui expliquent l'effet spectateur, Roxane?
Ces chercheurs ont montré que la présence de plusieurs témoins tend à réduire la probabilité d'intervention. Ça s'explique par plusieurs mécanismes psychologiques. Donc, un mécanisme psychologique, c'est cognitif, puis ça influence nos comportements, nos perceptions, nos jugements. Donc, il y en a 3 principaux qui ont été étudiés. Le premier, c'est la diffusion de la responsabilité. Plus il y a de témoins, moins on a le sentiment de responsabilité qui est important. Donc, la responsabilité se dilue entre toutes les personnes présentes présente. C'est comme si chacun devenait inactif. Donc, l'inaction devient moins coûteuse sur le plan psychologique. Parce qu'on se dit, quelqu'un d'autre va s'en charger. Le deuxième mécanisme, c'est l'appréhension de l'évaluation. Donc, lorsqu'une personne veut intervenir, mais elle sait qu'elle va s'exposer au regard des autres autour d'elle. Donc, elle peut aussi craindre de mal juger la situation, d'intervenir d'une façon qui n'est pas efficace ou même de paraître ridicule. Puis c'est cette peur qui va freiner souvent son passage à l'action. Donc, dans cette situation, on pourrait se dire, ben, et si je faisais une erreur de jugement? Puis finalement, le troisième mécanisme, c'est l'influence sociale. Donc, lorsqu'une situation n'est pas tout à fait claire, les témoins observent les réactions des autres pour savoir comment réagir. Hein? Quand il y a une situation qui se passe, parfois on regarde autour de nous comment les autres vont agir avant qu'on agisse nous personnellement. Donc, si personne ne bouge dans une situation urgente, on se dit que c'est peut-être parce que c'est pas si urgent que ça, vu que personne ne fait rien. Donc, ça s'appelle l'ignorance plurielle. Donc, tout le monde devient ignorant d'une certaine façon. Donc, autrement dit, tout le monde pense que les autres savent mieux quoi faire, mais personne n'agit. Donc, on s'imagine une alarme d'incendie dans un centre d'achat, par exemple. Si personne ne bouge, on pourrait se dire, ben, ça doit être une fausse alerte, parce qu'on observe le comportement des autres. Donc, l'influence sociale, l'ignorance plurielle, apparaissent principalement lorsque la situation est ambiguë. À l'inverse, on peut s'imaginer que dans une situation où le danger est imminent, par exemple un gros incendie, on voit les flammes, mais là, les gens vont agir sans nécessairement regarder ce que les gens font autour d'eux. Donc, ces processus psychologique montre que l'inaction des témoins peut être expliquée par des dynamiques sociales, nos relations avec les autres et cognitifs aussi qui vont freiner le passage à l'action.
Est-ce que l'effet spectateur s'applique dans toutes les situations ou ça existe, ou il existe des conditions qui permettent d'y échapper?
Oui, exactement. Il y a des conditions qui permettent d'atténuer l'effet spectateur, même si c'est un effet qui est très fort, qui a été démontré souvent. Il y a plusieurs facteurs qui permettent de l'atténuer. Il y a une étude allemande en 2006 par le professeur Fischer qui a montré que lorsque le danger est évident, que la situation est claire, bien, les gens vont moins hésiter à agir. Donc, ils vont perdre moins de temps à observer les autres, observer les réactions. C'est vraiment le contraire de l'ambiguïté de la situation que j'ai évoquée un peu plus tôt. Puis, ça réfère à une situation où les individus sont plus susceptibles d'être spectateurs. Donc, quand c'est ambigu, on est plus spectateur, on regarde, on observe, on prend notre temps. Mais quand c'est très clair qu'il y a un danger, que c'est très grave, bien, on va agir plus rapidement. L'effet spectateur va aussi s'affaiblir lorsqu'une personne se sent directement concernée ou bien compétente pour agir. Par exemple, un médecin qui aurait été formé ou une personne formée en premier soin. Donc, si il y a une situation qui se passe, cette personne-là, elle est habituée d'agir ainsi, donc elle va passer plus rapidement à l'action. Un autre facteur, c'est aussi lorsque les témoins se connaissent. On a peur de se faire juger, donc la responsabilité devient collective, puis ça favorise aussi une réponse plus rapide. Donc, si c'est un groupe de personnes qui se connaissent, ils vont souvent agir plus rapidement. Il y a une étude qui a été menée par Lips et ses collègues en 2024. Ils ont analysé 81 agressions filmées par des caméras de surveillance à Copenhague impliquant 764 témoins. Puis les chercheurs ont montré que au moins un témoin est intervenu dans 85% des cas lors de ces analyses de vidéos. Donc, en d'autres mots, dans 69 des 81 vidéos, une personne est intervenue dans le but de calmer la situation. Mais l'effet spectateur demeure. Plus le nombre de témoins augmente, moins chaque individu avait des chances d'agir. Puis, même lorsque le danger était évident, la diffusion de la responsabilité demeurait quand même présente. Donc, si 20 personnes assistent à une agression et qu'une seule intervient, bien, les 19 autres risquent de rester plus passives, donc de ne pas passer à l'action. Et tous ces résultats viennent confirmer qu'il existe des conditions pour atténuer l'effet spectateur, mais ça ne va jamais totalement l'éliminer. Puis l'étude de Lips confirme aussi l'importance du lien social, c'est-à-dire que les témoins qui connaissent la victime ou l'agresseur bien, sont plus enclins à agir ou à intervenir jusqu'à 20 fois plus que quand c'est des étrangers. Donc, même si les conditions, certaines conditions ont la capacité de pousser les gens à agir, il reste que l'effet spectateur demeure un phénomène bien réel.
De ce que je comprends, il suffit parfois d'un simple geste pour changer les choses et que le frein qu'on s'impose est psychologique.
Oui, en effet. Puis le simple fait de comprendre ces mécanismes-là peut nous aider à surmonter notre peur d'agir pour ne pas rester spectateur lorsqu'il se passe quelque chose autour de nous.
En tout cas, c'est une chronique qui fait réfléchir sur nous et la société. Un grand merci, Roxane, pour toutes ces chroniques tout au long de la saison. Et on va se retrouver en janvier.
Merci. Je vous souhaite des joyeuses fêtes et une merveilleuse année 2026 à tout le monde.
Pareillement. Au plaisir.
Merci.